Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour. Dans cette émission consacrée aux livres, ce sont des livres rares, et l'on pourrait même dire rarissimes, que nous allons évoquer en compagnie de Madame Mireille Pastoureau, directeur conservateur de la Bibliothèque de l'Institut de France, et de Monsieur Bernard Potier, président de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Mireille Pastoureau, bonjour.
Bonjour.
Monsieur Potier, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes très heureux de vous recevoir dans le studio de Canal Academy. Merci d'avoir répondu à notre invitation. À l'occasion de la rencontre des académies européennes à l'Institut de France du 21 au 23 octobre 2007, Mireille Pastoureau, vous avez d'abord fouillé, cherché parmi les trésors de la bibliothèque de l'Institut des livres et des documents rares et vous avez organisé une exposition pour que chacun des membres de ces académies, je rappelle qu'il y en avait 61 académies, 35 pays représentés, chacun puisse voir un livre de son pays. Alors Mireille, comment avez-vous trouvé ces trésors? Parce que je me demande comment la bibliothèque de l'Institut de France possède tant de livres de tant de pays d'Europe.
Oui, c'est juste. Alors, cette exposition a été organisée à l'initiative de Monsieur Gabriel de Breuil, chancelier de l'Institut, qui a organisé la rencontre et qui m'a expressément demandé de faire une exposition qui honorerait les visiteurs. Et il m'a demandé s'il serait possible d'illustrer tous les pays présents. Et j'ai relevé le défi parce que cette bibliothèque est vraiment très riche. Et le thème des académies est particulièrement bien représenté à l'Institut parce que les académies de l'Institut échangeaient leurs publications avec les académies étrangères et la bibliothèque est extrêmement riche en publications académiques qui ne se trouvent pas dans les autres bibliothèques françaises.
Alors, il y a des livres rares, on l'a dit, mais il y a aussi des objets, des gravures, d'autres choses que des livres.
Parfaitement, parce qu'il fallait que l'exposition soit un petit peu divertissante, dont nous ne pouvions pas seulement montrer des publications érudites, même si elles étaient très importantes. Donc, nous avons également puisé dans le fond de gravures, de dessins, de photographies, comme vous le disiez, de médailles, pour ponctuer le parcours.
Alors je voudrais, si vous me le permettez, Monsieur Potier, si vous me le permettez, Mireille Pastoureau, vous lire le mot d'introduction, la note d'intention de Monsieur le chancelier de Breuil, justement, lorsqu'il a voulu accueillir dans cette bibliothèque, à vos côtés, les académiciens des académies européennes qui étaient réunis. Quel meilleur point commun entre les académies que les livres? J'ai souhaité honorer les membres des académies européennes présents à Paris à l'occasion de cette rencontre en leur proposant un parcours dans les collections de notre bibliothèque. Celle-ci tire une partie de sa richesse des publications, tant anciennes que modernes, des académies étrangères. Leurs publications portent sur des champs disciplinaires nombreux et variés. Notre bibliothèque en est le dépôt presse exclusif en France et occupe de ce fait une place unique dans le paysage documentaire national. Elle est l'outil de travail des membres de l'Institut, mais accueille aussi des chercheurs extérieurs car elle constitue un pôle original de la recherche savante. Exposer toutes les publications des académies européennes conservées à l'Institut de France serait impossible tant elles y sont abondantes. Les 5 académies qui composent l'Institut de France entretiennent depuis toujours des échanges suivis avec les académies d'Europe et du monde et la presque totalité de la production de celles-ci fut recueilli par notre institution. Faute de place, on ne trouvera ici qu'un choix éclectique de documents émanant tant des académies européennes que de la production française. Ces documents, livres, imprimés, manuscrits, dessins, médailles et photographies, dont certains très anciens, illustrent les regards croisés entre les pays d'Europe du XVIIe siècle à nos jours. Ils témoignent des liens étroits qui ont uni les académies européennes depuis leur origine et de la curiosité intellectuelle qui les anime. Ils sont la preuve que les sciences et les arts ne connaissent ni frontières politiques, ni barrières linguistiques. C'était le mot de M. Gabriel de Breuil, chancelier de l'Institut de France, membre de l'Académie des sciences morales et politiques et de l'Académie française. Alors, M. Potier, vous-même, vous avez été présent lors de ces journées de rencontres européennes.
Oui, naturellement.
Quelle a été votre impression?
Une grande diversité et un ensemble de communications intéressantes parce qu'elles montraient comment dans chaque pays, en fait, il y avait à la fois une intention commune des académies, mais en même temps beaucoup de spécificités locales. et on pouvait s'y attendre, et cela ne peut que nous enrichir.
Vous êtes professeur de linguistique hispanique et, doit-on dire américaniste ou amérindianiste ?
Américaniste, mais préoccupé par les langues amérindiennes.
Amérindiennes, voilà. Et vous avez participé donc à cette exceptionnelle exposition de la Bibliothèque de l'Institut de France en l'enrichissant de plusieurs volumes de vos propres collections et notamment des grammaires espagnoles. Alors, parlez-nous de ces grammaires.
Oui, l'Académie espagnole qui a été créée en 1713 a commencé par publier un grand dictionnaire qu'on appelle le dictionnaire des autorités, vers 1726-1739, puis ensuite elle a voulu rédiger une grammaire qu'on appelait alors la grammaire de langue castillane, car le mot espagnol n'est venu que tardivement, vers 1930 seulement. Alors on a publié en facsimilé la première grammatica de la lingua castellana, 1771, et j'ai eu la chance de trouver la deuxième édition de 1772 et la quatrième de 1796, un peu par hasard, comme souvent, et il y avait à Paris, juste après la guerre, une librairie, Place Vendôme, en sous-sol. Je ne sais pas comment j'ai abouti là, mais il y avait énormément d'ouvrages anciens et des manuscrits. Alors, j'étais jeune, donc, à l'époque, et j'ai acheté ça pour des prix très raisonnables, qui correspondaient à
vos moyens
d'étudiant. Et ensuite, je me suis aperçu que cela me correspondait à mes préoccupations et j'ai continué ensuite à rechercher quelques ouvrages comme ça, anciens, qui sont vraiment passionnants.
Ce qui veut dire que vous avez un côté bibliophile.
Oui, 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 je crois. Collectionneur en général et puis bibliophile dans le cas présent.
Et vous aimez donc aller encore chercher des... Parce que les langues amérindiennes, ça couvre un vaste domaine, donc vous avez de quoi chercher.
Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'anciennes grammaires, très précoces, puisque ça commence fin du XVIe siècle, et puis au XVIIe, énormément de grammaire. Et donc, pour un linguiste, ça permet de comparer la démarche de ces missionnaires qui étaient sur le terrain et qui avaient l'expérience quotidienne, enfin des Indiens, et qu'on a accusé aussi de copier la grammaire latine, ce qui est, je crois, faux, parce qu'ils en savaient beaucoup plus que cela, et même s'il y avait des accusatifs ou des ablatifs, en fin de compte, ils avaient des observations très, très fines sur le quotidien et aussi bien en syntaxe qu'en sémantique. Je crois que ce sont des ouvrages très précieux.
Monsieur Potier, est-ce que vous-même, je crois que vous appartenez à ces académies espagnoles, mais peut-être plus largement à d'autres encore ?
Oui, je suis correspondant de la Real Academia Española et puis je suis correspondant aussi en Amérique latine puisque je n'ai pas vécu vraiment en Amérique latine, mais enfin j'ai enseigné à plusieurs reprises dans différents pays. Et j'ai donc là des anciens élèves ou des collègues, enfin, qui sont toujours restés en relation avec moi. C'est très, très agréable.
Est-ce qu'à l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres, il y a beaucoup de spécialistes comme vous de cette région du monde ?
Non, de l'Amérique, non, je suis à peu près le seul. Parce que c'est un fait historique. L'américanisme s'est trouvé... en partie chez des historiens qui peuvent se trouver à l'Académie des sciences morales et politiques, par exemple, ou des écrivains. Lévi-Strauss est à l'Académie française. Donc, nous sommes quelques américanistes répartis dans deux ou trois académies.
Eh bien, c'est déjà une bonne nouvelle. Mireille Passoureau, parmi les documents qu'il y a dans cette bibliothèque que vous avez découvert pour cette rencontre des académies européennes, il y a un ouvrage d'Antoine Rivarol qui est tout de même très curieux.
Voilà, c'est une petite publication qui est un peu emblématique de la rencontre. C'est le discours sur l'universalité de la langue française qui a remporté le prix de l'Académie de Berlin. L'Académie de Berlin en Prusse au XVIIIe siècle a proposé comme prix de concours, comme sujet de concours, pourquoi la langue française est-elle universelle ?
Parce que donc, ça ne posait pas de problème.
Ça ne posait pas de problème. Et c'est Antoine Rivarol qui a gagné le discours et le concours et qui a prononcé un discours qui a été imprimé. Nous avons la première édition publiée à la fois à Berlin et à Paris. Et c'est un texte très connu et naturellement très intéressant. Il explique pourquoi la langue française est supérieure aux autres langues. Et une des langues qu'il dénigre particulièrement est la langue anglaise, ce qui prouve qu'il était mauvais prophète.
Je le crains. En tout cas, c'est un document qui est paru en 1784, en effet. Pour l'Autriche, vous avez un très beau document qui est un document musical, si
voilà,
je puis dire.
nous nous sommes fait plaisir en sortant une pièce de musique qui est une messe de Haydn du XVIIIe siècle. Alors, ce n'est pas un manuscrit autographe, c'est très rare d'avoir des autographes des compositeurs. C'est une copie, mais ancienne de l'époque, avec une jolie reliure verte. Et voilà, nous sommes très heureux d'avoir ce document à la bibliothèque.
Pour la Géorgie, vous avez là ajouté une petite mention. D'abord, il y a une ancienne carte de la Géorgie qui est exposée. Elle date de 1738. Et puis, vous avez quand même voulu donner un petit plus à la Géorgie. Pourquoi?
Oui, parce que Madame Carrère-Dancausse, qui est secrétaire perpétuelle de l'Académie française, et Monsieur Jean-Pierre Mahé, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, confrère de professeur Potier, sont tous deux membres de l'Académie de Géorgie. Enfin, Monsieur Mahé, correspondant, non, est membre. Et Madame Carrère-Dancausse également, voilà. Qui est originaire, qui est de Géorgie.
Dont la famille, enfin, est originaire de Géorgie. Voilà. Oui. Pour l'Irlande, vous avez trouvé un document aussi surprenant d'Oscar Wilde.
Oui, c'est un ouvrage de bibliophilie qu'on ne s'attendrait pas à trouver à l'Institut. C'est un livre qui vient de Paul Morand et c'est une édition originale d'Oscar Wilde tirée à seulement 200 exemplaires, Le Sphinx, très beau livre de 1894 et qui est dédicacé par Oscar Wilde au père de Paul Morand, Eugène Morand, qui était conservateur des monuments français.
Voilà. Alors, il y a des documents de la Lettonie, Lituanie, de la Macédoine, de la Moldavie, car c'est évidemment l'Europe au sens large et plutôt historique et géographique qu'au sens actuel du mot. Pour le Portugal, vous avez aussi un très joli livre, alors qui est beaucoup plus récent, lui, « Portugal que j'aime », présenté par Jacques Chardon, légendé par Paul Morand. De nouveau lui, et raconté par Michel Déon.
Voilà.
Ça fait beaucoup de mots.
Oui. Voilà. C'est un livre qu'on ne sort pas tous les jours, donc c'était l'occasion de le montrer un petit peu. Il est illustré de belles photographies.
Très bien. Mireille Pastoureau, comment les invités, les 80, je crois, ils étaient 80 académiciens européens qui sont venus 3 jours, comment ont-ils visité votre bibliothèque? Quelle a été l'ambiance, leur impression?
Ils se sont égayés dans la salle, ils ont regardé des livres. Et je crois que d'une façon générale, enfin, d'après ce qu'ils m'ont dit, ils étaient très impressionnés par l'élégance de l'Institut. Bon, la qualité intellectuelle des membres, bien sûr, la chaleur de l'accueil, mais ils ont trouvé qu'il y avait un style, pas ancienne France un petit peu, mais le mot d'élégance a été prononcé plusieurs fois par les membres. Je crois qu'ils étaient sous le charme. Il faut dire qu'ils sont aussi allés à Chantilly, au musée Jacques-Marandré.
On leur a fait visiter de beaux lieux. Et enfin, sous la coupole, Monsieur Potier, étiez-vous sous la coupole vous-même?
Oui, naturellement.
Naturellement.
Je tenais à honorer.
Alors, quelle a été votre impression de cette grande cérémonie?
C'était une occasion d'entendre des associés étrangers, entre autres, participer à cette cérémonie. Et je crois que l'accueil était bon. On a eu également droit à un petit concert en même temps, de trompette. Enfin, tout était très bien organisé. Ça a étonné, d'ailleurs, assez fortement plusieurs de mes collègues avec qui j'ai pu parler.
Bernard Potier, merci. J'espère qu'on se retrouvera dans une autre émission pour consacrer vraiment beaucoup de temps à vos travaux, à votre parcours et à vos recherches. Mireille Pastoureau, merci. À une autre fois.
À une autre fois.
Merci à vous.